Chapitre 3. Le temps aurait semblé long à Adrienne Morier sans l'intérêt d'une situation qu'elle regardait se développer, comme on regarde, en s'impatientant parfois, une graine qu'on a mise dans un vase et qui pousse lentement son petit germe vert. 3 semaines avaient glissé lentement, dans ce silence où dorment les semaines et les mois écoulés. Rien de marquant n'avait mis en relief tel jour plutôt qu'un autre. On s'était promené dans les bois, les jours de pluie, on avait bouleversé toutes les chiffonnières de la maison pour y découvrir des vieilleries devant lesquelles Adrienne s'extasiait, vieilles pelotes, vieux éventails de la Révolution où l'on voyait des montgolfières, ou bien le char de la France portant les 3 États et dirigé par un hibou, vieilles écharpes de soie à fleurs, vieilles robes étonnamment décolletées, où l'on ajustait bien vite un nuage de tulle avant de s'en revêtir. C'était très amusant, cela, quand on était entré dans une de ces robes étroites comme un fourreau, à corsage court qu'une ceinture serrait sous les bras, qu'on avait noué autour de sa cheville le ruban noir des brodequins, on prenait un éventail, on mettait sur sa tête quelque invraisemblable chapeau de n'importe quelle époque, et l'on se promenait dans cet équipage à travers la maison. Zoé ne comprenait pas bien le plaisir que trouvait ainsi Adrienne à jouer au portrait de sa mère grand. Le sens archaïque lui manquait entièrement, sans doute parce qu'elle avait été saturée de vieux depuis son enfance et que le vieux ne nous plaît que lorsqu'il est assez vieux pour nous être redevenu nouveau. Les 2 jeunes filles ne se quittaient pas une minute de tout le jour. Quand le temps était beau, elles travaillaient à l'aiguille l'après-midi sous les lilas défleuris, en compagnie de Mademoiselle Célanie, qui s'efforçait toujours, par des habiletés de conversation, de pénétrer les dispositions intimes de Zoé, tandis qu'Adrienne, en son cœur, soupirait après une tasse de thé. Mais le thé de 5 heures était une institution inconnue à la Maison Grise, aussi bien que les commodes fauteuils d'osier où l'on étend sa gracieuse indolence et les hamacs dont on n'aurait pas osé même prononcer le nom devant Mademoiselle Célanie. Un jour, la vieille demoiselle, après beaucoup de circonlocutions et s'adressant à Adrienne plutôt qu'à Zoé, aventura le mot de mariage pour voir si l'entretien ne pourrait point être poussé de ce côté-là. Son père lui avait enjoint de préparer Zoé à certaines éventualités, mais Mademoiselle Célanie trouvait cette tâche difficile, d'autant qu'on ne l'y aidait pas du tout. Chose singulière, Adrienne, pleine d'effusion sur n'importe quel autre sujet, devenait muette et songeuse quand on s'approchait le moins du monde de la question du mariage. « Oh, moi, dit Zoé, ça m'ennuiera beaucoup de me marier, mais enfin, je vois que ça se fait généralement. » Si mon cousin Clovis demandait ma main, je serais joliment contente. Est-ce que j'ai dit une bêtise ? Fit-elle, voyant Adrienne se mordre les lèvres pour ne pas rire. On épouse en général une personne de son âge, dit Mademoiselle Célanie un peu sèchement. Si ton cousin avait voulu se marier, ce n'est pas une fillette qu'il aurait choisie. Zoé était devenue très rouge. Je voudrais bien savoir, dit-elle, pourquoi l'on me fait parler. « Car vous me faites parler, ma tante. Je vous ai vu faire un signe à Adrienne. » Adrienne leva la tête, son aiguille en l'air au-dessus d'une fleur qu'elle esquissait dans la bâtisse. « Voyons, mignonne, fit-elle, parle-nous un peu du mari que tu rêves. » « J'y pensais autrefois, dit Zoé, se rapprochant d'Adrienne par un petit mouvement tendre et appuyant la tête sur son épaule comme elle aimait à le faire. » Depuis que tu es ici, je n'y pense plus, je n'ai pas le temps. Je désire naturellement qu'il ne me maltraite pas. Il y a dans le journal de terribles histoires de maris qui maltraitent leurs femmes. Grand-papa prétendait l'autre soir que les femmes aiment à être battues. Est-ce croyable ? Il est vrai, fit-elle en riant, que je n'ai jamais été battue, je n'en sais pas le goût. Mais une chose que je souhaiterais, poursuivit-elle, après une petite pause contemplative, employée à évoquer un mari théorique, c'est qu'il s'absente souvent. Quand il serait absent, ce serait si gentil, tout à fait comme auparavant. Zoé, dit sa tante en secouant la tête, on ne se marie pas pour que ce soit tout à fait comme auparavant. Oh, je sais, dit Zoé plus grave, l'on a des devoirs, on tient le ménage. Flore m'a déjà fait apprendre des recettes. Mademoiselle Célani estima que cet entretien préliminaire pouvait être considéré comme suffisant et elle annonça à son père que la voie était ouverte. M. Romanel avait gardé de son indisposition une humeur plus irritable et une impatience qui voulait tout précipiter. Le mariage de Zoé était devenu son idée fixe, c'était le thème unique de ses entretiens avec M. Clovis. Il dissertait à perte de vue sur chaque circonstance insignifiante, prétendant que Jules était fixé depuis longtemps et que c'était Adrienne qui l'empêchait de faire le pas décisif. Il s'ingéniait à procurer aux deux jeunes gens des occasions de tête-à-tête et les prétextes qu'il inventait étaient si transparents que la naïveté seule de Zoé l'empêchait d'y voir clair. Mademoiselle Célani devait comparaître chaque jour avec un rapport détaillé sur les progrès de l'affaire et, comme elle y prenait autant de plaisir que son père, leurs colloques étaient interminables. Jules Morier, qui était venu à la Maison Grise dans l'intention de présenter ses respects à son oncle Clovis et de partir aussitôt, avait reçu une invitation illimitée. Il allait donc et venait, suivant le besoin de ses affaires, et quand, enfin, une démarcheuse lui procura un emploi provisoire sur une ligne de chemin de fer en construction dans le voisinage et dont l'un des ingénieurs était tombé malade, il loua un cheval de selle afin de venir prendre chaque soir des nouvelles de sa sœur. Très persuadé qu'il aimait Zoé, l'aimant peut-être d'une petite flamme qui n'avait rien de volcanique et sentant dans l'atmosphère des courants qui le portaient, il avançait correctement vers son but, s'arrêtant aux étapes prévues, se gardant d'une hâte de mauvais goût et ne profitant qu'avec discrétion des facilités qu'on lui offrait. Zoé se plaisait dans la société de son cousin et le disait fort ouvertement. En général, elle prenait son parti quand Adrienne le taquinait. Ses attentions lui étaient agréables. Elle mettait à son corsage une fleur des bouquets qu'il apportait. Une fois, elle avait pris son bras à la promenade parce que sa tante Célani lui faisait signe de l'accepter, mais cette façon d'aller lui parut singulièrement incommode. Elle était fort à l'aise avec lui et quand il aventurait quelques petites phrases un peu tendres, croyant qu'il plaisantait, elle lui rendait la monnaie de sa pièce. Enfin, Adrienne, qui observait tous ses symptômes et qui avait chaque jour, avec sa conscience, des entretiens peu agréables, énervé, brusque à la situation et engagea son frère à se déclarer. Les fenaisons, toujours tardives à la montagne, avaient commencé dans la seconde semaine de juillet. On entendait partout, dans la vaste campagne, le roulement des chars sur le plancher sonore des granges et, le soir, dans l'air tranquille, la vibration des faux qu'on battait au seuil des fermes. Une animation de travail et de bruit entourait la Maison Grise dès 3 heures du matin, quand le fermier allait avec ses deux filles et deux ouvriers faucher au clair de lune l'herbe lourde de rosée. Ces heures, pleines encore du mystérieux silence de la nuit, mais belles déjà de la promesse du jour, étaient pour Samuel les meilleures de toutes. En montant au pré, il laissait les autres le devancer et restait seul en arrière avec sa songerie. Il se retournait parfois pour regarder la maison avec son vaste toit gris et ses girouettes et ses volets fermés derrière lesquels Zoé dormait. Sur la pente toute grise de rosée que couronnaient les grands bois noirs, les vaches descendaient lentement au tintement doux de leur sonnaille. Le ciel était d'un gris très pâle où se mourait la lune pâlissante et l'étoile du matin était blanche comme une perle. Tout ce gris et toutes ces pâleurs formaient un paysage exquis, noyé de tendresse et de rêve. Parfois, une note indécise, le bonjour d'un oiseau à peine réveillé, glissait sous les branches et des autres nids qui voulaient dormir encore, montait un léger pépiment de reproche, puis tout se taisait de nouveau. Ah, cet air des beaux matins, comme il rafraîchit et fortifie le cœur! Comme le baume discret de ce grand silence s'étend doucement sur la blessure qu'on porte. On a beau penser à son chagrin, quand la première alouette s'élance d'un sillon comme une fusée vers le ciel, on tressaille avec elle de la simple joie de vivre. Le père Voumard, qui depuis quelque temps voyait son garçon triste et préoccupé, le laissait sans commentaire à l'arrière-garde, d'autant que Samuel n'y restait point pour le travail. Quand on arrivait au pré que bordaient des noisetiers touffus et des aubépines qui dessinaient leurs brindilles comme des coups de crayon sur le ciel pâle, Les faucheurs se rangeaient en ligne, le fermier prenait la tête, suivi de Samuel, qui lançait sa faux plus loin qu'un autre et faisait le plus large andin. Ensuite venaient les deux ouvriers, puis Georges, et enfin Louis, qui aimait ce dernier rang, où il pouvait souffler à l'aise, sans craindre la pointe d'une faux sur ses talons. La première faux partait, décrivant un grand demi-cercle parmi les hautes fleurs serrées, dont on ne distinguait pas encore les couleurs, et qu'elles couchaient pêle-mêle, et tous les bras robustes se tendaient, prêts à partir à leur tour. On voyait, dans le crépuscule transparent, passer à temps mesuré l'éclair recourbé des lames, qui sifflaient en tranchant les tiges tendres et mouillées. Les andins s'alignaient, réguliers, comme un remous, que l'aube effleurait d'une douce blancheur. De temps en temps, on s'arrêtait pour affiler l'acier et mousser. La pierre noire qu'on tirait de l'étui de bois pendu à la ceinture passait deux ou trois fois en grinçant au fil de la lame, puis on se remettait en marche après avoir échangé un mot sur l'épaisseur de l'herbe ou sur les taupinières plus nombreuses que l'autre été. Alors, le soleil perçait de sa première flèche la frange de sapin au sommet des pâtures, et tout d'un coup, la rosée étincelait et des buées blanches montaient de la terre et flottaient sur les andins comme un linceul léger sur les fleurs mortes. C'était à ce moment qu'on s'arrêtait pour observer dans le ciel comment les nuages se comportaient et dans le creux du vallon si les brouillards montaient bien. Quand les nuages rougissaient à l'orient et que les vapeurs se traînaient déchirées, on cessait de faucher. Inutile de mettre à bas plus d'herbe, elle ne sécherait pas, disait le fermier. Allons voir si la soupe est prête. Et quand il redescendait au long des prés, sa faux sur l'épaule, Samuel était toujours plus gai qu'en montant, non par des raisonnements qu'il se serait faits ou que l'espoir fût venu, mais le bon travail, ce bienfaiteur, l'avait distrait de sa peine. L'autre moment délicieux pendant les fenaisons, c'est le soir, quand on a soupé, repassé sa faux et qu'on n'a plus rien à faire. Alors les hommes s'assiedent en cercle près de la porte, les femmes paraissent de temps en temps sur le seuil et dans le fond sombre brille la lampe qui éclaire déjà la cuisine. Adrienne et Zoé, dont la présence était maintenant familière, arrivaient sur la pointe des pieds à cause de l'herbe humide, serrées dans leur châle souple et s'asseyaient au coin du banc tout près l'une de l'autre, écoutant ce qu'on disait. Le crépuscule déjà sombre simplifiait le dessin du groupe, la silhouette des épaules, des têtes nues ou des larges chapeaux, des bustes penchés en avant. C'était comme un tableau de Millet, vigoureusement dessiné, tout en contour, et l'intérieur de l'esquisse rempli d'une ombre uniforme. Quelquefois, sur un mot chuchoté par Zoé, Georges se levait, entrait dans la maison et revenait avec deux accordéons. L'un des journaliers savait les mêmes airs que lui. Assis en face l'un de l'autre, un genou croisé pour supporter l'instrument et de l'autre pied marquant la mesure, ils se regardaient fixement et l'un attaquait sans mot dire une mélodie que l'autre suivait après quelques tâtonnements. Dans le groupe, on ne parlait pas. Ces beaux grands gaillards tranquilles et fatigués, les coudes sur les genoux, écoutaient la musique en regardant un croissant de lune qui semblait chevaucher au galop sur les nuages. Parfois, l'un d'eux se levait et allait prendre sur le seuil Marianne pour faire avec elle un tour de valse. La fillette, mince comme un brin d'osier, son court jupon se gonflant autour d'elle, tournait, légère, sur la pointe des pieds, et le gars, beau danseur, sonnant du talon sur les dalles, faisait faire à sa danseuse toutes sortes de voltes inédites avec une gravité qui donnait à la valse lente un air de menuet rustique. Mais quand on entendait sur la route le galop d'un cheval, les accordéons s'arrêtaient au beau milieu d'un air, tout le monde se levait et, après un bref bonsoir, disparaissait dans l'obscurité. « Allez prendre le cheval de M. Maurier, vous, les garçons !» disait le fermier. Samuel n'y allait jamais. Le bon Georges, devinant chez son frère une répugnance pour cet office, le remplissait chaque soir, car Louis était bien trop paresseux pour s'en charger à son tour. Les deux jeunes filles, bras dessus, bras dessous, arrivaient à la porte de l'écurie en même temps que le cavalier. « Bonsoir, te voilà !»« Votre souper va être prêt, cousin. Faisons quelques pas sur la route en attendant. Il fait si bon ce soir !» Le matin même, avant de partir, Jules, aiguillonné par sa sœur, avait fait demander une entrevue à M. Romanel. Qu'il vienne, qu'il entre !» cria le vieillard. « Mais mon père, vous n'avez pas déjeuné, vous êtes faible !» objecta Mademoiselle Célanie. « Je déjeunerai de meilleur appétit quand il aura parlé. Ah, j'ai bien cru qu'il n'y viendrait jamais. Et il serait venu plus tôt sans sa sœur. Va-t'en, ma fille, et dis-lui d'entrer. » Mademoiselle Célanie eut bien voulu qu'on l'engageât à revenir, son message fait. « Vous n'aurez pas besoin de moi, mon père. »« Besoin de toi, non. Ah, la curieuse! Non, non, je n'aurai pas besoin de toi. » Il la voulait toute pour lui, la saveur ardemment désirée de cette minute. Quand Jules entra, le vieillard était assis très droit dans son fauteuil, caressant d'une main sa longue barbe. L'excitation de l'attente ranimait ses yeux ternes et faisait courir un peu de sang sous sa peau au ton d'ivoire. « Eh bien, mon jeune ami, vous avez désiré me parler ? » fit-il en lui indiquant une chaise. Il avait peine à dissimuler sa hâte impatiente, il aurait voulu lui crier « au fait !» tandis que Jules, toujours correct, s'enquérait de la façon dont il avait passé la nuit. « J'ai bien dormi, merci. C'est pour savoir cela ?»« Pour cela, » dit Jules poliment, « et pour autre chose encore. » Il avait soigneusement préparé son petit discours et il arrivait maintenant au moment précis où il lui convenait de l'entamer. « Pendant les quelques semaines, dit-il, que votre hospitalité m'a permis de passer sous ce toit, il eût fallu que j'eusse les yeux bandés pour n'être pas frappé des mérites et des charmes de votre petite fille, Mademoiselle Zoé, et votre invariable bienveillance à mon égard m'a fait espérer... « Qu'est-ce, monsieur, qu'avez-vous » dit-il avec alarme. Le vieillard venait de se renverser contre le dossier du fauteuil. Des muscles contractés de la gorge s'échappaient un sanglot pénible, tandis que deux ou trois larmes lentes sortaient de ses yeux. « Rien, » dit-il avec effort, « c'est l'émotion. Attendez un instant. » Jules remplit un verre d'eau et le lui présenta. « Merci, merci, c'est déjà passé. J'ai beaucoup souhaité ce moment, je puis vous le dire. » poursuivit l'aïeul en affermissant sa voix. « J'ai prévu le premier que la chose arriverait. Clovis lui-même n'y aurait jamais pensé. Oui, Zoé est gentille, c'est une bonne petite que j'aime beaucoup. » Sa voix s'altéra de nouveau. Il ferma un instant ses yeux où montaient des larmes d'attendrissement. Elle serait heureuse, l'enfant, et c'était le vieux grand-père qui aurait fait ce bonheur-là. « Continuez, » dit-il, s'efforçant de reprendre sa tenue droite et digne, mais serrant les bras du fauteuil de ses vieux doigts secs qui tremblaient. « Continuez, je vous ai interrompu. » « Je disais, » poursuivit Jules, il n'aimait pas à laisser en route une phrase qui venait bien, « je disais que votre invariable bienveillance à mon égard m'a fait espérer un accueil favorable à la requête que je vous présente respectueusement. » « J'aime Mademoiselle Zoé et j'ai l'honneur de vous demander sa main. » M. Romanel se recueillit un instant. Il savourait la situation. Il repensait à des moments identiques où des soupirants, les uns timides, d'autres sûrs de leur fête, d'autres brusques et pressants, avaient sollicité la main de ses filles. Il y avait en particulier un certain Robert qui s'était montré positivement impertinent. C'était après Julie qu'il était celui-là. Oui, en 43 ou 44. Et Julie en tenait pour lui les cervelets. Un garçon sans sou ni maille. Jules attendait avec quelque inquiétude que le vieillard sortît de sa songerie. Il prit sur lui de parler de nouveau. « Si vous m'y autorisez, je plaiderai moi-même ma cause auprès de Mademoiselle Zoé. »« C'est ça, parlez-lui ce soir. Pour ma part, je dis oui et de grand cœur. » « Merci, » fit Jules d'une voix émue, en serrant la main que lui tendait le grand-père. Le soir, Adrienne et Zoé, accompagnées de Jules, se promenaient donc lentement sur la route que blanchissait la lune, regardant leurs ombres noires s'allonger devant eux et ne disant pas grand-chose, quand Adrienne prit tout à coup peur de s'enrhumer et courut vers la maison pour quérir un fichu à mettre sur ses cheveux. Zoé, distraite et fredonnant l'air que jouaient tout à l'heure les plaintifs accordéons, ne fut pas tout d'abord gênée par le tête-à-tête. Elle ne s'avisa de quelque chose d'insolite que lorsque Jules se rapprocha d'elle et lui prit la main. Cousinellement, il pouvait bien lui prendre la main sans lui causer trop d'alarme, mais la pression de ses doigts lui déplut. « Chère Zoé, dit-il à voix basse, je désire vous parler. »«
Et qui vous en empêche ?
Répondit-elle. « J'ai une très grande faveur à vous demander. »«
À moi ?
Zoé, votre grand-père m'a permis de vous demander si vous consentiriez à devenir ma femme. » Elle s'arrêta saisie. C'était donc cela, ce mystère qu'elle sentait autour d'elle depuis quelque temps. Se marier ? Ah, ciel ! Quelle histoire ! Quel changement ! Mais épouser Jules, c'était devenir la sœur d'Adrienne, voilà qui serait charmant. Elle réfléchissait. « Qu'en pense grand-papa ? » Il a répondu, « Pour ma part, je dis oui et de grand cœur. »
« Il vous aime beaucoup, je le sais. Moi aussi, je vous aime beaucoup, Jules, » ajouta-t-elle avec un petit signe de tête affectueux. « Mais ce n'est pas tout cela. C'est une grosse affaire que de se marier. Voyons, parlez-moi un peu pour m'aider à me décider. »
Jules était étonné de la tournure que prenait l'entretien. Il se figurait que lorsqu'une jeune demoiselle avait prononcé « Jules, je vous aime », le grand mot était dit. À la vérité, elle avait ajouté « beaucoup ». Jules aurait préféré qu'elle n'eût pas ajouté cela. Il parla cependant. Il dit tout ce qui lui vint à l'esprit de plus tendre et de plus persuasif. Il fut imaginatif, éloquent, et Zoé l'écoutait avec une affectueuse bienveillance. « Zoé, répondez-moi, consentez-vous ? » Elle réfléchit encore quelques instants, la tête penchée, les mains nouées devant elle.
« Je veux bien, » dit-elle enfin d'un petit ton résolu.
« Merci, chère Zoé, » murmura Jules. Il lui prit la main, la passa sous son bras, puis, se penchant vers sa petite fiancée, il lui mit, oh, le plus délicatement du monde, un baiser sur la joue. Zoé tressauta, comme si on l'eût piqué. Elle dégagea sa main et fit un pas en arrière, frémissante.
« Par exemple !» exclama-t-elle. « Ah, c'est un peu fort !»
Elle regarda autour d'elle comme pour chercher des défenseurs. Un sanglot nerveux gonfla sa poitrine.
« Jamais je n'aurais attendu cela de vous, Jules » fit-elle, prête à pleurer.
« Mais Zoé, dit-il dans une grande consternation, c'est tout à fait correct, je vous assure.
« Correct ? » cria-t-elle.
« Parfaitement, demandez à qui vous voudrez. L'autre jour, poursuivit-il avec un tact remarquable, l'autre jour, quand ma moustache a effleuré votre joue, vous n'avez fait qu'en rire. »
« C'était bien différent !» s'écria Zoé, indignée et rougissante. « C'était une maladresse, tandis que ceci, vous l'avez fait exprès. »
Il lui était difficile de se défendre de l'avoir fait exprès. Il croisa les bras et regarda Zoé. Elle croisa les bras et le regarda.
« Voilà un joli début, » fit-elle. « Écoutez, Jules, nous n'allons pas nous quereller, nous ne l'avons jamais fait. Je vous pardonne, mais ne recommencez pas. »